Tipeee. Vous écoutez RFI, les 11h en temps universel, 13h à Paris. RFI Midi, présenté par Alban Leprince. Bonjour Alban.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous et bienvenue dans RFI Midi. 2h30 d'informations, de reportages, d'éclairages pour décrypter l'actualité. Le monde qui nous entoure, celui dans lequel on vit, avec nos journalistes, nos envoyés spéciaux, nos invités. Et au sommaire, aujourd'hui la France, tout d'abord, où les contrôles d'identité augmentent et visent souvent la même catégorie de population. Nous y reviendrons avec Amélie Beaucourt. L'actualité française, c'est aussi le conclave sur les retraites. Il s'est achevé sans fumée blanche, prise de parole surprise au petit matin du Premier ministre François Bayrou qui invite les syndicats. Emmanuel Macron, le président français, lui, appelle à trouver une solution. On en reparlera avec l'invité politique de Véronique Rigoulet. C'est Anna Pic, aujourd'hui elle est députée socialiste de la 4e circonscription de la Manche, membre du bureau national du PS et de la commission de la défense nationale à l'Assemblée nationale. Dans RFI Midi, également les dirigeants de l'OTAN réunis à La Haye. Aujourd'hui un sommet sous haute tension entre guerre au Proche-Orient, en Ukraine, sécurité européenne. Nous serons donc sur place avec l'envoyé spécial de RFI mais aussi à Berlin avec Pascal Thibault et Delphine Nerbollier. L'invité de 14h20 heure de Paris, midi 20, temps universel, ce sera Jean-Loup Saman, expert associé à l'Institut Montaigne, chercheur senior à l'Institut Moyen-Orient de l'Université Nationale de Singapour, spécialiste des pays du Golfe. 10 minutes plus tard, Afrique Midi avec Nicolas Sûr. Et puis dans la dernière demi-heure, consacrée à Haïti et aux Amériques, nous serons avec Godson Pierre, fondateur d'Alter Press en Haïti. Il a notamment pu s'entretenir avec Fritz Alphonse Jean à la tête du conseil présidentiel de transition. Nous irons aussi au Chili, qui vient d'ouvrir un immense parc dans sa capitale Santiago. Voilà, vous avez le programme RFI Midi, c'est parti. Mais tout d'abord, c'est le journal avec vous, Gilles Moreau, bonjour.
Bonjour Alban, bonjour à tous.
Et à la une, une trêve très fragile, mais une trêve tout de même entre Iraniens et Israéliens.
Venus d'Europe, de Chine ou bien encore de Russie, on va y revenir. De nombreuses réactions ont salué l'annonce par le président Donald Trump d'un cessez-le-feu après plus de 10 jours d'hostilité. Israël a donc annoncé avoir accepté l'arrêt des combats, tout en jurant de réagir avec force à toute violation. Le gouvernement Netanyahou estime avoir atteint tous ses objectifs de guerre, à commencer par la destruction des installations nucléaires de l'Iran. On assiste depuis ce matin à une trêve très fragile que les deux camps s'accusent d'ailleurs d'avoir violée. Nous retrouvons Nicolas Roca, notre envoyé spécial à Beersheva dans le sud d'Israël. Bonjour.
Bonjour Gilles.
Vous trouvez Nicolas sur le dernier point d'impact iranien avant le cessez-le-feu. Quelle est l'atmosphère sur place ?
Eh bien, beaucoup d'incertitudes, hein, Gilles. 4 personnes sont mortes ce matin à Beersheva, alors que plusieurs d'entre elles se trouvaient dans des abris. Mais elles auraient été frappées de plein fouet par une bombe de 400 kilos, selon le président israélien. Et le trou béant dans l'immeuble laisse imaginer la puissance de l'impact. Nous sommes ici dans une ville qui est usée par les frappes à répétition. Les habitants venus observer l'immeuble, en grande partie détruit, avaient des avis très variés. Certains voulaient voir ce cessez-le-feu très fragile tenir et d'autres espèrent voir Israël poursuivre ses frappes sur Téhéran, l'Iran qu'ils décrivent comme l'ennemi ultime à qui il est impossible de faire confiance.
Et l'armée israélienne assure avoir intercepté 2 missiles iraniens ce matin, après l'heure du cessez-le-feu, précisément à 4h, temps universel, Nicolas.
Oui, une salve dirigée vers le nord. Des habitants auraient aussi entendu les bruits des interceptions. L'Iran nie toute frappe et accuse Israël d'avoir bombardé l'Iran plusieurs heures après l'horaire prévu du cessez-le-feu. Pourtant, vous l'avez dit, Benjamin Netanyahou a assuré ce matin avoir atteint tous les objectifs militaires, ce qu'il présentait comme un préalable à tout arrêt des frappes. Donald Trump exhorte Israël à ne pas bombarder l'Iran. Difficile donc de prévoir les prochaines heures. Le Qatar, de son côté, cherche à jouer l'apaisement et à se poser en intermédiaire dans les négociations. Un rôle qui aurait été demandé par Donald Trump, selon les déclarations du Premier ministre qatari il y a quelques instants. Il assure avoir transmis le message à Téhéran qui a abouti à ce très fragile cessez-le-feu.
Merci Nicolas Roca, envoyé spécial de RFI à Beersheva dans le sud d'Israël. Côté iranien, la proposition américaine d'un cessez-le-feu bilatéral n'a pas été formellement acceptée. Le chef de la diplomatie a toutefois indiqué que Téhéran n'avait pas l'intention de poursuivre ses frappes si Israël a arrêté son agression.
On le disait, Gilles, de nombreuses réactions saluaient l'annonce par Donald Trump Trump d'un cessez-le-feu.
Oui, réaction de la Chine, de l'Arabie Saoudite, de l'Europe. L'Union européenne salue cette annonce et rappelle que les négociations sont la seule solution viable. On s'arrête maintenant sur l'écho rencontré en Russie. Le Kremlin dit lui aussi se réjouir de l'arrêt des combats, mais le cessez-le-feu a été conclu sans les efforts de médiation proposés dès le soir des premières frappes par Vladimir Poutine. Correspondance d'Anissa El-Jabri.
La démarche de Donald Trump s'est faite sans Moscou. Moscou qui ne se prive donc pas de souligner les risques qui perdurent à ses yeux, notamment en raison des méthodes israéliennes. Écoutez le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov.
Il est clair que l'utilisation de méthodes telles que les assassinats politiques pour éliminer à la fois les dirigeants militaires et les scientifiques accroissent le risque d'une déstabilisation accrue du Moyen-Orient, crée de graves bouleversements pour la sécurité mondiale et pour l'économie mondiale, et en particulier pour le régime de non-prolifération des armes de destruction massive.
Certains en Russie en ont eux-mêmes d'ailleurs déjà conclu qu'il fallait renforcer l'arsenal nucléaire national pour être protégé de toute intervention. D'autres voix, elles, jugent que la Russie n'a pas pu ou pas voulu en faire assez pour un pays présenté comme un allié. La réponse de Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin.
Nombreux sont ceux qui cherchent à utiliser la situation pour jeter de l'huile sur le feu et compromettre les relations de partenariat entre Moscou et Téhéran. Hier encore, nous avons dit à plusieurs reprises que la Russie soutenait réellement l'Iran et sa position claire.
À ceux qui dressent un parallèle entre ce conflit et la chute de Bachar el-Assad protégé de Moscou en décembre dernier, la Russie répond encore qu'elle a l'intention de développer ses relations avec l'Iran. Anissa El-Jabri, Moscou, RFI.
C'est dans ce contexte que s'ouvre à La Haye aux Pays-Bas un sommet de l'OTAN. L'annonce d'un cessez-le-feu au Moyen-Orient est bien évidemment dans tous les esprits. Attendu ce soir, Donald Trump participera à un dîner de gala à l'invitation du roi des Pays-Bas. À l'heure d'un début de désengagement américain en Europe, c'est sous sa pression que l'OTAN doit décider une forte hausse de ses dépenses de défense. Quant à l'Ukraine, invitée d'honneur du précédent sommet, elle est cette fois contrainte à davantage de discrétion. Son président Volodymyr Zelensky est à La Haye, mais pas en tant que participant officiel du sommet. L'UNRWA, l'agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, dénonce l'actuel système de distribution de l'aide humanitaire à Gaza. C'est selon elle une abomination. Ce système a été confié à un organisme soutenu par Israël et les États-Unis. Chaque jour, il donne lieu à des scènes chaotiques. Ce matin, de sources palestiniennes, au moins 21 personnes ont été tuées par des tirs israéliens alors qu'elles se trouvaient à proximité d'un centre de distribution d'aide.
Le cas sans salle est depuis des mois au cœur d'une grave crise diplomatique entre l'Algérie et la France.
Boualem Sansal comparaissait ce matin en appel à Alger. On rappelle que l'écrivain accusé d'atteinte à l'intégrité du territoire a été condamné en première instance à 5 ans de prison ferme. Pierre Fersion, bonjour.
Bonjour Gilles.
Ce matin, le parquet a requis 10 ans contre l'auteur franco-algérien.
Oui, 10 ans de réclusion et un million de dinars d'amende, soit un peu plus de 6600 euros. C'est ce qu'avait déjà requis le 20 mars dernier le parquet du tribunal de Dar El Beida en première instance. Boualem Sansal avait finalement écopé de 5 ans de prison ferme et de 500 000 dinars d'amende. Selon le site d'information Casbah Tribune, le procureur a estimé ce matin que l'écrivain, je cite, n'a jamais été reconnaissant envers son pays. Lui qui, a-t-il rappelé, est né, a grandi, étudié, travaillé, a été soigné en Algérie. Boualem Sansal avait notamment été condamné en première instance pour atteinte à l'intégrité du territoire algérien. En cause, ses propos tenus dans un média français, l'extrême droite, dans lequel il estimait que l'Algérie avait hérité sous la colonisation française de territoires appartenant jusque-là au Maroc. Interrogé sur ces déclarations, Boualem Sansal s'est défendu, selon l'AFP. La France a créé les frontières de l'Algérie, mais heureusement, après l'indépendance, l'Union africaine a décrété que ces frontières héritées de la colonisation étaient intangibles. Fin de citation. Le verdict est maintenant attendu pour le 1er juillet prochain. Ses proches espèrent de leur côté une grâce présidentielle. Ils ont coché la date du 5 juillet, date de la fête de l'indépendance algérienne.
Merci Pierre Fersion. En France, François Bayrou ne renonce pas malgré l'échec du conclave sur les retraites. Les partenaires sociaux, syndicats et patronats n'ont pas réussi à améliorer la réforme Borne de 2023 qui porte l'âge légal de départ à 64 ans au lieu de 62. Le Premier ministre reçoit aujourd'hui ces organisations séparément dans une tentative de la dernière chance de surmonter les blocages. Dans ce dossier, il joue gros, hein, son gouvernement est sous la menace d'une motion de censure votée à l'Assemblée. Toujours en France, un rapport du défenseur des droits sur les discriminations à travers les contrôles d'identité. Il met en lumière une hausse des contrôles avec une persistance des discriminations qui génèrent, je cite, une érosion de la confiance envers l'institution policière.
Pour les Français, l'accès à un médecin varie de plus en plus selon les régions et les inégalités se creusent.
Oui, c'est ce que montre une enquête de l'association de consommateurs UFC Que Choisir. Théo Renaudon, bonjour.
Bonjour Gilles.
Le phénomène est connu, Théo, depuis 25 ans, mais il s'aggrave.
Oui, trois quarts des départements français ont vu le nombre de leurs médecins diminuer ces 10 dernières années. Départements pour la plupart ruraux. Dégradation qui concerne tous les types de docteurs, hein, généralistes, gynécologues, pédiatres. Au contraire, le dernier quart, lui, le mieux pourvu, enregistre une amélioration, par exemple à Paris. C'est ce que constate ce rapport.
Des chiffres qui risquent de relancer un débat inflammable en France.
Débat sur la régulation de l'installation des médecins. En clair, forcer les jeunes docteurs à s'installer pour une période donnée là où les praticiens manquent. Une loi en ce sens fait son chemin au Parlement français en ce moment. 1500 élus locaux appellent à l'approuver. Mais elle suscite une véritable colère des médecins qui dénoncent mesures contre-productives, décourageantes pour les jeunes docteurs, risquent de les faire fuir à l'étranger. Le débat parlementaire doit se poursuivre au Sénat français prochainement.
Merci Théo Renaudon. Voilà, c'est la fin du journal, mais l'information continue avec vous, Alban Le Prince.
Merci beaucoup Gilles Moreau, à tout à l'heure.
RFI. La France à midi.
De plus en plus de contrôles d'identité en France, c'est ce que révèle un rapport de la défenseure des droits paru aujourd'hui. Sans surprise, les expériences vis-à-vis des forces de l'ordre sont différentes selon les catégories de population. Bonjour Amélie Beaucourt.
Bonjour Alban.
Le rapport analyse l'évolution de la relation entre la police et la population française à travers trois paramètres, le contrôle d'identité, le dépôt de plainte et la confiance placée dans l'institution.
Oui, ce rapport, il se concentre sur la perception concrète des individus vis-à-vis de la police depuis 2016, date de la dernière étude. Et en presque 10 ans, premier constat, les contrôles d'identité se sont multipliés, notamment pour les catégories de population peu accoutumées à la chose, les cadres, les personnes de plus de 55 ans et les personnes perçues comme blanches.
Mais alors comment expliquer cette hausse des contrôles ?
Le rapport avance quelques hypothèses. D'abord tout récemment pour 2024, les Jeux Olympiques en France, mais plus largement les mouvements sociaux qui ont massivement mobilisé le pays, la révolte des Gilets jaunes, les manifestations contre la réforme des retraites, ou encore la mort de Naël, jeune homme tué par un policier il y a 2 ans. On note aussi un changement de politique interne à la police avec la loi adoptée en 2017 sur la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, ou encore les nombreuses opérations contre le trafic de drogue qui font du contrôle d'identité l'un de leurs outils principaux.
Mais face à l'augmentation générale du nombre de ces contrôles, Amélie, tous les Français ne sont pas sur le même pied d'égalité.
Exactement, les jeunes hommes perçus comme noirs, arabes ou maghrébins ont 4 fois plus de risque d'être contrôlé et 12 fois plus de risque de subir un contrôle poussé, comprenez des fouilles de sac, des palpations, des conduites au poste de police ou des injonctions à quitter les lieux. Le problème, c'est qu'il est difficile ensuite de s'en plaindre, d'après Claire Hédon, défenseur des droits.
En fait, il n'y a pas de traçabilité des contrôles d'identité, à la fois une traçabilité individuelle, c'est-à-dire une preuve pour la personne qu'elle a été contrôlée et donc un recours possible si elle se pense victime de discrimination. Et cette traçabilité, elle peut se faire de plusieurs ordres. Si les caméras piétons sont déclenchées ou l'enregistrement sur tablette, ça permettrait de pouvoir avoir un recours. Et pas non plus de traçabilité globale, c'est-à-dire que les forces de sécurité n'évaluent pas chaque année le nombre de contrôles d'identité, pour quelle efficacité et quel lien police-population.
Et faute de traces, justement, sur 100 personnes confrontées à un comportement inadapté, seulement 8 tentent de faire reconnaître ces abus.
Alors en France, la loi impose aux services de police de recevoir toute demande de dépôt de plainte, sauf que, eh bien, une personne sur 5 encore se voit refuser ce droit.
Oui, et sont victimes de comportements non déontologiques, l'utilisation du tutoiement, des provocations, des insultes ou des gestes brutaux dirigés toujours vers les plus vulnérables.
que certaines populations sont plus exposées à une interaction avec les forces de sécurité qui est non conforme à la déontologie. Et on parle là principalement de jeunes hommes perçus comme noirs ou arabes, de personnes qui se déclarent non hétérosexuelles ou souffrant d'un handicap ou étant au chômage ou résidant dans des quartiers défavorisés. Et donc c'est bien la vulnérabilité de certaines personnes qui fait que l'interaction avec les forces de l'ordre peuvent être plus difficiles et dans ces cas-là mine la confiance dans les forces de sécurité.
Dernier point, Alban, plus l'accueil au commissariat se passe mal, plus les personnes ont un sentiment de méfiance ou d'inquiétude en présence de la police dans l'espace public, donc plus la confiance se détériore.
Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Amélie Beaucourt.
J-2 avant la publication du rapport de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime toute la semaine sur RFI. Nous vous proposons donc une série de reportages consacrés à ce trafic, consommation, prévention, lutte, comme à Marseille dans le sud de la France où nous vous emmenons aujourd'hui. Dans certains quartiers, les habitants vivent entre la pression sociale et celle des réseaux de dealers et policiers. C'est un reportage signé Siam Spencer pour RFI.
Dans ce quartier au nord de Marseille, le point de deal vient d'ouvrir. Les cris des guetteurs résonnent toute la journée sous les fenêtres de Nadia. Mais il y a 2 ans, le trafic a fait une irruption beaucoup plus violente dans sa vie. À l'époque, son fils travaille une journée pour le point de deal en bas de chez elle. Elle l'empêche d'y retourner. C'est elle et son mari qui en paieront les frais, passés à tabac dans leur hall.
6-7 sur une personne. Du sang et tout. J'ai porté plainte, mais ils n'ont rien fait. Mais maintenant, ils viennent, par exemple, chez moi, ils me disent, laisse ta porte ouverte, je ne peux pas dire non. Tu dis non, ils te ramènent chez Chicago, ici. Moi, quand je suis venue ici, je ne savais pas qu'il est comme ça. C'est trop.
À la sortie de l'école, à quelques dizaines de mètres du quartier, un groupe de mamans raconte aussi leur sentiment d'impuissance face au trafic.
Oui, c'est lourd.
Dali est éboueuse, c'est la nuit en allant au travail qu'elle a le plus peur.
Je me lève à 4h du matin, je sors en pleine nuit. Je ne sais pas ce qui va m'arriver, je ne sais pas à qui je peux m'attendre, je ne sais pas sur qui tomber non plus. Hein. Mais après, ça fait 5 ans, j'ai fait toute ma scolarité ici, primaire jusqu'au lycée. La plupart des jeunes ils sont autour de moi ici, je les ai vus naître, je les ai vus grandir. Et je vois que la société ne leur donne aucune chance de se donner en valeur et de travailler. Je trouve que c'est injuste. Ils ont besoin, ces jeunes.
Une injustice également pour ces habitants du quartier qui se sentent pris en étau entre les opérations de police et le deal.
La problématique, c'est quand la police vient dans le quartier, je comprends qu'ils font leur boulot. Mais ils viennent toujours à 16h30 à la sortie des écoles. Ça fait qu'on se fait gazer. Les enfants sont en plein milieu de tout ce raffut et psychologiquement pour les enfants.
On se retrouve en otage entre les deux, que ce soit entre les jeunes et que ce soit entre les policiers. On a des contrôles qui sont assez durs avec les jeunes, que ce soit avec les adultes. Hein. Donc voilà. Au lieu de se sentir soutenu, on se sent au contraire comme étant coupable nous-mêmes. Donc non.
Comme la plupart des habitants interrogés, ces mères de famille ne voient pas de solution réelle au trafic de drogue ou aux conditions dans lesquelles elles vivent. Pour elles, seule solution, trouver un autre appartement. Tâche compliquée alors que les prix du loyer dans le privé sont en constante augmentation.
Reportage RFI signé Siam Spencer.
RFI, la France à midi.
Et comme chaque jour, on vous retrouve, Véronique Rigolet, pour l'entretien politique. Bonjour.
Bonjour Alban.
Vous recevez aujourd'hui la députée Anna Pic, porte-parole du Parti Socialiste et membre de la Commission Défense à l'Assemblée Nationale.
Bonjour Anna Pic.
Bonjour.
Bienvenue sur RFI. Au lendemain de l'échec du conclave sur les retraites, le Premier ministre Bayrou, pourtant, veut encore y croire, lever tôt ce matin pour tenter de trouver, sinon de forcer peut-être, une voie de passage en réunissant une toute dernière fois les partenaires sociaux. Ça se passe en ce moment même à Matignon. Anna Pic, qu'est-ce que vous inspire cette ultime tentative du Premier ministre ? Est-ce qu'il y a encore une chance de parvenir à un accord ?
Bien évidemment que nous aimerions que le dialogue social ait pu aboutir, mais il faut avouer que le Premier ministre avait largement contribué à ce que ça ne puisse pas fonctionner en mettant un revenant sur un certain nombre de points, et dès le deuxième jour, un certain nombre d'organisations syndicales étaient sorties, avaient claqué la porte, ce qui n'augurait rien de bon évidemment. Certains, la CFDT, les CGPME ont continué à essayer de négocier, à essayer de travailler, mais il y avait évidemment tous ces obstacles. Le MEDEF n'a rien posé sur la table à part ces derniers jours, et pour finalement plutôt poser des obstacles supplémentaires que véritablement mettre en négociation un objet qui aurait pu faire l'objet d'un consensus. Et avec les propos, il y a quelques semaines de ça, de François Bayrou, qui déjà, alors qu'il s'était engagé par écrit à ce que tous les sujets soient mis sur la table, y compris et surtout le retour à 62 ans, et on l'a bien vu avec ses prises de parole, eh bien, il y avait une fin de non-recevoir sur ce sujet dont le MEDEF a pu très largement profiter et faire échouer ses négociations.
Vous dites que c'est la faute à l'intransigeance du patronat, mais également à François Bayrou qui a créé les conditions de l'échec de ce conclave.
François Bayrou avait donné un droit de veto au MEDEF, c'était une évidence, et nous l'avions dénoncé lors de questions d'actualité il y a de cela quelques semaines. Par ailleurs, effectivement, nous avons dit que c'était ce conclave, c'était l'un des engagements, c'était quelque chose qui pour nous était extrêmement important et qui doit là aujourd'hui crédibiliser ou non la parole du Premier ministre. Nous attendons désormais que quoi qu'il arrive, quoi qu'il sorte du bureau du Premier ministre, qu'un projet de loi soit porté à discussion et en débat à l'Assemblée nationale, un projet de loi dans lequel nous pourrions, nous parlementaires, mettre y compris la question de l'abrogation de la réforme Borne et du retour à 62 ans, en posant la possibilité d'un financement autre. Donc nous attendons du Premier ministre qu'il remplisse les engagements qu'il nous avait notifiés par écrit et qui nous avait finalement donné la possibilité d'avoir cette négociation. Mais on voit aujourd'hui que le Premier ministre est revenu sur à peu près tous les engagements qu'il avait pris. Celui-là, c'est pour nous un marqueur parce qu'il est ce sur quoi les Français se sont mobilisés ces dernières années. Et nous attendons à ce que, même si le dialogue social n'a pas permis d'aboutir, nous puissions finalement débattre dans l'hémicycle.
Échec du conclave, mais auriez-vous accepté un accord qui laisse l'âge de la retraite à 64 ans contre ce que proposaient les syndicats, à savoir des avancées sur la pénibilité et sur les retraites des femmes ?
L'engagement par écrit du Premier ministre ne se limitait pas à traduire du point de vue législatif l'accord des partenaires sociaux. Il permettait justement de remettre aussi pour nous, parlementaires, une fois la démocratie sociale passée, une fois le dialogue social établi avec un accord sur un certain nombre de points, les engagements qui étaient écrits dans cette lettre pouvaient permettre et doivent permettre aussi aux parlementaires de prendre leur part dans ce débat. Rappelons que nous avons très dernièrement voté une résolution de façon très majoritaire dans l'hémicycle pour l'abrogation des 60, exactement, pour l'abrogation de cette mesure d'âge à 64 ans.
Est-ce que vous avez le sentiment de vous être fait un peu avoir alors que ce conclave, on le rappelle, vous avez été concédé en échange de la non-censure du gouvernement. C'était un vrai jeu de dupes,
au final. Nous avons en responsabilité cherché à négocier, et pas uniquement sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale, mais aussi sur le budget de la France. Nous avons permis d'avoir moins de déremboursements de médicaments. Nous avons permis un certain nombre de choses qui ont soulagé le pouvoir d'achat des Françaises et des Français. Nous l'avons fait en responsabilité, mais toujours en disant qu'évidemment, ça n'était pas un quitus pour François Bayrou ou pour ce gouvernement. Nous avons toujours eu nos points de vigilance, nous avons toujours dit que nous tenions à ce que nous puissions trouver un interlocuteur qui soit fiable. Force est de constater que si nous n'allons pas, avec un projet de loi, à nouveau débattre dans l'hémicycle, alors François Bayrou n'aura tenu aucun de ses engagements, ou presque, et que nous censurerons évidemment le fait d'avoir un Premier ministre qui ne peut pas être notre interlocuteur.
Mais est-ce une véritable...
La question, c'est de savoir, est-ce que ce Premier ministre est un interlocuteur ou non? Eh bien, en l'occurrence, s'il ne remplit pas les conditions de ses engagements, eh bien, il ne sera plus notre interlocuteur.
Est-ce une véritable surprise que le Premier ministre, pour vous, eh bien, ne souhaite pas remettre en chantier la réforme des retraites? Il avait par ailleurs indiqué très tôt qu'il était contre le retour à 62 ans pour le départ à la retraite.
Mais, l'engagement qu'il a pris, oui, c'est celui...
Mais qu'il ne tiendra pas, visiblement.
Qu'il ne tiendra pas, eh bien, alors nous censurerons. Nous censurerons parce que la crédibilité de la parole politique, ça doit aujourd'hui être au cœur de nos engagements. Les Françaises et les Français ne peuvent pas comprendre ce que nous faisons tous les jours si il y a ce reniement perpétuel de la parole. La politique, c'est de la parole. La politique, c'est de l'engagement. Et que si on revient systématiquement sur ce qu'on a dit, eh bien, évidemment que les gens ne peuvent pas comprendre ce que nous faisons et ne peuvent pas nous faire confiance. Il y a une question démocratique à remplir ces engagements. Alors, si François Bayrou ne tient pas à les remplir, nous allons censurer. Nous lui reposons la question sur la suite de ce conclave, maintenant qu'il est terminé. La semaine dernière, nous avons une réponse non satisfaisante. Nous avons attendu de voir ce que les partenaires sociaux arrivaient à mettre en œuvre. Il se trouve que c'est un échec. C'est un échec qui a été provoqué par l'intransigeance du MEDEF, qui est intransigeance permise par le comportement du Premier ministre. Donc, si le Premier ministre ne nous assure pas qu'il remplit les engagements qu'il avait pris lui-même, eh bien, nous censurerons.
Fin de la mascarade, la méthode Bayrou est un échec monumental. Ce sont les mots de la France insoumise, hein, de Jean-Luc Mélenchon, qui a la dent dure contre le gouvernement, mais contre vous également, et votre soutien passé donc au gouvernement. Le PS doit, dit-il, assumer cet échec et ses dégâts et montrer l'exemple pour voter au complet la censure. Votre camp est toujours divisé sur cette question de la censure.
Mais en fait, nous n'avons jamais soutenu ce gouvernement. À aucun moment, nous n'avons soutenu
vous
ce gouvernement.
Vous n'avez pas voté la censure.
Nous n'avons pas voté la censure. En effet, nous n'avons pas voté la censure. Mais rappelons que nous avons voté, chaque fois qu'il nous a été possible de le faire, les budgets qui nous ont été présentés. Nous avons voté contre au Sénat puisque ça a été présenté. Nous avons voté contre en CMP puisque là, ça a été présenté. Il est passé par 49-3 et nous avons fait le choix d'assurer un minimum de stabilité aux Françaises et aux Français, mais pas à ce gouvernement. Et nous avons dit que les points que nous avions négociés et devaient être mis en œuvre. Donc, nous allons, je viens de le dire, je le répète, nous allons reposer la question des engagements de François Bayrou. S'il ne les remplit pas et s'il nous dit ne pas les remplir, eh bien, nous censurerons et nous n'avons pas besoin de la France insoumise pour savoir quand et comment nous devons mener ce combat face à un gouvernement et un Premier ministre qui n'est pas à la hauteur et qui décrédibilise sa parole et ses engagements.
Et voilà qui est dit. L'actualité dans le monde et au Parlement, c'est également demain soir le débat à l'Assemblée nationale sur le conflit entre Israël et l'Iran. Qu'est-ce que vous en attendez alors que le cessez-le-feu imposé la nuit dernière par les Américains semble très fragile ?
Le cessez-le-feu est fragile, néanmoins nous devons prendre la mesure de tout ce qui peut faire en sorte que la population se trouve en sécurité. Qu'est-ce que nous en attendons? Eh bien, nous appelons à la reprise de démarches diplomatiques maintenant depuis plusieurs jours et plusieurs semaines en ce qui concerne le Moyen-Orient. Il n'y aura pas d'issue par la guerre, il n'y aura pas d'issue sur la question du nucléaire iranien par la guerre, ni sur la question d'un possible établissement d'un régime démocratique en Iran. Donc, ce que nous attendons, c'est qu'effectivement, il y ait non seulement une reprise de dialogue, mais que nous fassions à nouveau confiance au multilatéralisme, parce que à part par le droit international, il n'y aura pas de stabilité.
Même,
rappelons,
même si toute cette séquence, c'est deux jours de conflit, la force l'aura emporté à la fois sur le droit international et la diplomatie, en quelques mots.
À nouveau, effectivement, la force, alors, ne l'a pas emporté, puisque en réalité, c'est ce qui a prévalu, mais pour l'instant, nous n'avons aucun résultat. Et à aucun moment, nous ne devrions envisager de bombarder des cibles, des sites nucléaires. Rappelons les mois que ça avait provoqué en Ukraine à Zaporojia. Donc, il est intolérable que nous fassions la situation se termine de cette façon.
Et on vous aura entendu. Merci Anna Pic. Bonne journée à vous.
Et bonne journée Véronique Rigoulet.
Tout à l'heure sur RFI, sur le Pont des Arts, Nathalie Amar.
Chez elle, la musique est une affaire de famille. Marie-Claude Lambert-Phileas perpétue à travers son groupe, Votia, l'héritage du Maloya et de son père, Gramoun Lélé, qui en était l'une des figures légendaires. Elle nous fait découvrir son nouvel album, Viekaz, en live dans l'émission.
Sur le Pont des Arts,
avec la compagnie Corsair.
Du lundi au vendredi à 15h10 TU, sur RFI.